France Info.
Notre invitée ce matin est la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et Renaud Délier est à mes côtés.
Bonjour Brune Poirson.
Bonjour à tous les deux.
Alors le gouvernement devait ce matin présenter en Conseil des ministres le projet de loi énergie. Ce texte vise notamment à inscrire dans le marbre la fermeture des dernières centrales à charbon en France. Est-ce que la France fermera ses dernières centrales à charbon avant la fin du quinquennat ?
Oui. C'est un engagement du président de la République. Ça a été répété par ensuite les deux ministres d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, puis François de Rugy. Et c'est bien sûr toujours d'actualité. On y travaille d'ailleurs de façon intense.
Alors pourquoi le texte a été reporté ?
Parce que ce n'est pas facile. Vous savez, il y a 1 million de personnes qui ont de l'électricité grâce... on va dire, même si c'est pas forcément le mot le plus approprié, mais grâce à ces 4 centrales à charbon. Donc c'est une décision qui n'est pas anodine, qui est très courageuse, qui est difficile aussi parce que derrière il y a des emplois, des personnes, des familles qui vivent du travail qui est effectué sur ces centrales à charbon.
Pourquoi la loi était, son examen en tout cas, reporté, repoussé ?
Parce que nous voulons qu'elle soit la plus ambitieuse possible.
Ça veut dire que le texte va revenir reverdi, enfin vers un peu plus...
Deux choses. Déjà, une première, c'est que le passage en Conseil des ministres est reporté. Mais ça ne veut pas dire que le passage à l'Assemblée l'est. Le passage à l'Assemblée nationale ne l'est pas. Ça ne change pas. Simplement là, on voulait se donner un tout petit peu plus de marge de manœuvre.
Là, le texte n'était pas prêt pour aujourd'hui.
Le texte était prêt, mais on veut qu'il soit encore plus ambitieux.
Sur quel point ?
Sur l'ambition en matière de réduction des émissions de CO2. Nous voulons atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ça, c'est l'objectif. C'est un objectif qui est conforme à l'accord de Paris. C'est un objectif qui est très ambitieux, que nous poussons aussi d'ailleurs au niveau européen. Et pour ça, ça suppose un certain nombre de choses. Et notamment, et c'est ce que nous voulons préciser dans le projet de loi à venir, et notamment une réduction de notre consommation d'énergie de 20% d'ici 2030 et moins 40% aussi d'ici 2030 d'émissions de CO2. Donc vous voyez que c'est un texte qui est particulièrement ambitieux et non seulement il est ambitieux, mais en plus on se donne les moyens d'atteindre nos ambitions avec la fermeture de ces 4 centrales à charbon, avec le développement des énergies renouvelables.
Et qui sera donc examiné quand à l'Assemblée ?
D'ici à l'été.
D'ici à l'été, ça ne change pas, le calendrier de l'examen ne change pas. Renaud Délie.
Il y a une autre réunion aujourd'hui qui se tient à Bercy, elle, autour de la filière automobile française. En l'occurrence, on sait que les acteurs de cette filière plaident pour une extension de la vignette écologique critère 1 aux voitures diesel de dernière génération. Bercy est plutôt favorable à l'extension de cette vignette critère 1. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension de cette vignette aux véhicules diesel ?
Écoutez, pour le moment, les vignettes telles qu'elles sont satisfaisantes. En tout cas, c'est ce que nous avons choisi. Le but, c'est que ce soit aussi très clair pour les Français. Hein, on leur a dit qu'on voulait résolument sortir du diesel et l'objectif là n'est pas pour autant d'envoyer un signal qui pourrait être perçu comme contradictoire.
Donc vous êtes hostile à l'extension de la vignette critère 1 aux véhicules diesel ?
Disons que il y a un certain nombre de vignettes et elles sont et telles qu'elles sont actuellement, c'est satisfaisant.
Bon, ça changera pas.
Écoutez,
tant pis pour les milliers d'emplois menacés, ce sont les arguments de la filière.
Et les clés des décisions. Ouais. Mais vous savez, je crois, on peut discuter comme ça des vignettes ou pas. C'est effectivement un point qui est important, mais je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est notre objectif. Notre objectif, il est de toute façon de multiplier par 5, par exemple, la vente de voitures électriques d'ici 2022. Il est aussi de continuer à être sur cette dynamique de prime à la conversion et de sortie progressive du diesel.
Cette vignette, elle a effectivement un rôle considérable. On l'a encore vu très récemment lors de pics de pollution dans des grandes agglomérations. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, Bercy soit aussi sensible au lobby de l'automobile qui voudrait l'étendre aux véhicules diesel ?
Alors, je suis pas sûr qu'on puisse parler là de lobby de l'automobile, mais simplement en France, il y a des constructeurs, parce que lobby,
Qu'il y ait un lobby de l'automobile
en
France.
En tout cas, il y a des représentants du secteur automobile français qui, bien sûr, poussent leur intérêt, leur vision des choses. Et ils ont fait, c'est ce qu'ils nous disent, ils ont fait beaucoup de travail sur le diesel pour améliorer considérablement la qualité des voitures, hein, si je puis dire, en tout cas faire en sorte qu'il y ait moins de particules fines. Tout ça, c'est à étudier très clairement, mais je crois qu'il faut garder en mémoire aussi, c'est un peu le passif qu'on a, des moments comme le Dieselgate et autres. Donc il faut être extrêmement prudent sur ces questions-là.
Il y a un autre dossier qui concerne l'environnement, mais pas uniquement en ce moment, c'est le Lyon-Turin. On sait que le gouvernement italien est en train de se déchirer sur cette question. Une partie de l'équipe gouvernementale ne veut plus financer ces travaux et le creusement du tunnel. Est-ce qu'il verra le jour ?
Alors, nous, la position française, elle est extrêmement claire depuis le début. Les travaux ont commencé déjà, ils sont bien engagés. Maintenant...
Enfin, pour l'instant, on est les seuls à creuser, hein.
Oui, mais maintenant, les
Italiens... Le principe d'un tunnel, normalement, c'est qu'on creuse des deux côtés.
Les Italiens, vous savez, c'est un problème politique du côté italien. Effectivement, vous l'avez précisé. Et la coalition se déchire autour de ça. Mais, et c'est ce que la ministre chargée des Transports a rappelé, il faut maintenant, et elle a pressé les Italiens, de prendre une décision. Nous leur avons laissé le temps, nous continuons à leur laisser le temps pour prendre la décision. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des financements européens à la clé. Et qu'on ne pourra pas attendre ad vitam aeternam.
Et est-ce que la France pourrait payer davantage? Parce que les Italiens, aujourd'hui, payent davantage que la France.
Écoutez, pour le moment, il y a un plan de financement qui est très prévu, qui est très précis, qui est très clair, et on se tient à ça. Encore une fois, c'est une question politique du côté italien, mais nous avons toute confiance dans la capacité des Italiens à prendre une décision en temps voulu.
On va aborder dans quelques instants les propositions que votre parti, La République En Marche, a faites ce week-end dans le cadre du grand débat national. Mais d'abord, un mot sur la tribune que signe aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon dans plusieurs grands médias européens. C'est en quelque sorte sa réponse à la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Tribune intitulée « Sortez des traités stupides ». C'est ce que demande le leader de la France Insoumise, qui dit aussi dans cette tribune, je le cite, « Macron est devenu dangereux, sa phobie anti-russe le fait rôder aux frontières de la guerre. »
Je crois que là, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi l'expression, mais continue à être en plein délire. Moi, c'est ça que j'entends et que je lis et que je vois derrière une tribune comme ça. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait accuser le gouvernement, en tout cas le président de la République, de vouloir attiser et remuer chiffon rouge face à la Russie. Ce serait totalement irresponsable. C'est absolument pas, bien évidemment, le cas. Et j'y vois aussi une pâle tentative de vouloir, en quelque sorte, copier, imiter la méthode du président de la République.
Brune Poirson, vous restez avec nous dans une minute. On va donc examiner quelques-unes des propositions faites ce week-end par votre parti lors de ce grand débat national qui doit s'achever théoriquement en fin de semaine. D'abord, l'essentiel de l'actualité à 9h-20, c'est Camille Revel.
Le début de 3 semaines de procès pour Bernard Tapie à Paris. L'homme d'affaires est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. La justice l'a déjà condamné à rembourser 400 millions d'euros dans l'affaire. 40 surveillants pénitentiaires bloquent à nouveau la prison de Nice ce matin. Ils réclament plus de sécurité près d'une semaine après l'agression de 2 gardiens de la prison de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. Ethiopian Airlines immobilise tous ses Boeing 737 MAX après le crash d'un de ses appareils hier sur la liaison Addis Abeba-Nairobi. Les 157 passagers, dont 9 Français, ont été tués. La Chine interdit à ses compagnies de faire voler ses appareils jusqu'à nouvel ordre. 1500 foyers encore privés d'électricité ce matin autour de Douai dans le Nord. Et la circulation des TER toujours interrompue sur plusieurs axes dans les Hauts-de-France. La faute au vent violent hier. Et de 5 matchs consécutifs sans défaite pour l'OM et même une victoire 1-0 pour les footballeurs marseillais face à Nice hier soir pour la 28e journée de Ligue 1.
Info. Toujours avec la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, et toujours avec Renaud Dely.
La République En Marche a donc formulé hier un certain nombre de propositions dans le cadre du grand débat national. Et le délégué général du mouvement, Stanislas Guérini, a ressuscité une mesure, la taxe carbone. On l'écoute.
Pourquoi ne pas préserver le principe d'une hausse de la taxe carbone sur tous les autres usages, qui s'appliquerait notamment au transport aérien et maritime? Une action que nous devrons porter au niveau européen. Et à la condition évidemment, qu'elle soit affectée à 100% à l'accompagnement de la transition écologique.
Brune Poirson, vous avez dit que la taxe carbone était un outil efficace, donc c'est donc le retour prochain à la taxe carbone?
Alors là, vous venez de passer un extrait de ce qu'a dit Stanislas Guérini hier. Stanislas Guérini, c'est le chef, en quelque sorte, hein, de La République En Marche, c'est-à-dire un mouvement politique qui est là pour donner des idées.
On part de loin, là, dans votre réponse.
Non, mais
on va atterrir, mais on part de très loin.
Mais pas du tout.
Ah, c'est le principal mouvement de la majorité.
Bien sûr,
et il est là confirmer.
Il est là pour...
Il est là pour encourager.
Attendez, il est là pour encourager le gouvernement ou pour donner potentiellement pour le challenger un petit peu, et c'est ce qu'il fait là sur la question de la taxe carbone. Je l'ai moi-même, vous savez, remise sur la table et reposée dans le débat. Donc, à titre personnel, j'ai pas de questions là-dessus. Simplement, moi, je peux pas vous donner une direction très précise aujourd'hui, puisque nous sommes encore en plein débat.
Bon, mais une chose, non,
il y a plusieurs, non, mais il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce que dit Stanislas Guérini. Je crois qu'il pose le principe de la cohérence et de l'équité, c'est-à-dire que on a demandé un effort aux Français, mais il faut aussi demander un effort et mettre un prix sur la pollution, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Il faut mettre un prix sur la pollution, mais la pollution qui est faite, qui est produite, pas uniquement par les foyers et par les Français, mais aussi dans le secteur maritime, dans le secteur aérien. Et ça, ça fait partie des choses que nous poussons.
Mais vous êtes favorable au retour de la taxe carbone ou pas ?
Vous,
à titre personnel.
Ça fait partie des choses que nous poussons au niveau, par exemple, européen. Quand je vous parle des émissions, de peut-être aller encore plus loin pour taxer les émissions du secteur aérien ou encore du secteur maritime. La taxe carbone, mettre un prix sur la pollution. Ça, c'est quelque chose, ça fait des années que ça a été démontré par des économistes, ça fonctionne, ça permet de changer les comportements. Mais ça dépend aussi comment c'est fait, et si les recettes fiscales, et comment les recettes fiscales sont utilisées et sont potentiellement reversées ou en tout cas réinvesties.
On a du mal à se dire, Brune Poirson, que Stanislas Guérini lance cette idée comme ça tout seul dans son coin, sans en avoir au minimum référé à l'Élysée.
Non, mais ça fait partie... Vous savez, ça fait partie des choses qui sont potentiellement sur la table et qui sont discutées. Son rôle à lui, c'est d'essayer de nous pousser et d'aller encore plus loin, toujours plus loin.
Parce que s'il vous pousse pas, il se passe rien.
Mais absolument pas. Regardez, moi j'ai moi-même proposé il y a encore pas longtemps.
Oui, mais vous n'arrivez pas à le redire à ce micro ce matin. C'est pour ça que je vous pose la question.
Je le dis et je le répète.
Il faut une hausse de la taxe carbone.
J'ai pas dit il faut une hausse. J'ai dit parlons-en, rien ne peut être tabou et c'est pas la chose qui nous a fait rentrer dans ce mouvement des gilets jaunes qui va devenir tabou. Au contraire, l'objectif de ce grand débat-là, c'est qu'on puisse parler de tout. Et une des choses que nous dit aussi ce grand débat, et on le voit d'ailleurs, c'est ce dont ont parlé vos collègues du Parisien, on voit que la transition écologique arrive en numéro 2 dans les préoccupations des Français. Donc il faut qu'on puisse parler de tout et de tous les outils.
Mais vous dites qu'il faut parler, mais il faut décider aussi à un moment.
Il y a un moment, bien sûr.
Vous avez évoqué par exemple la taxation du kérosène pour le transport aérien, il y a déjà
pas forcément le kérosène. Je crois que alors déjà il y a
où en est l'action de la France au niveau européen sur ce dossier.
Déjà plusieurs choses. Un, on part pas de zéro. Les émissions et le secteur aérien contribuent aussi à financer ou à en tout cas tempérer la pollution qu'il émet. Il faut aller encore plus loin. Et moi je pense qu'il faut un prix sur la pollution dans le secteur aérien qui aille encore plus loin.
Et la France à Bruxelles se bat pour l'obtenir aujourd'hui.
Écoutez, j'étais à Bruxelles la semaine dernière et aux côtés des ministres de l'environnement belge et des Pays-Bas, eh bien j'ai dit que la France soutenait leur proposition qui est d'étudier et d'envisager potentiellement différentes pistes pour aller plus loin sur la contribution du secteur aérien à la lutte contre la pollution et pour taxer les émissions du secteur aérien. Absolument, ça c'est une position que soutient la France.
Autre idée, Brune Poirson, qui a été évoquée cette fois-ci par Emmanuel Macron, c'était dans sa lettre aux Européens il y a quelques jours, c'est celle de créer une banque européenne du climat. Écoutez ce qu'on disait. Ici même, hier matin, à votre place, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau.
Mettons en place une banque européenne du climat qui permet de financer des investissements sur l'efficacité énergétique, sur la lutte contre les gaz à effet de serre et sur les renouvelables.
Là encore, est-ce qu'on avance sur cette piste d'une banque européenne pour le climat ? Et est-ce que vous pensez réussir à l'imposer à nos partenaires européens ?
Ah mais de toute façon, ça fait partie des priorités vraiment majeures de ce gouvernement-là, qui est de le pousser au niveau européen. C'est indispensable, encore une fois. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce ne sont pas les contribuables qui vont financer la transition écologique. Il y a environ 30 milliards par an de sous-investissement dans la transition écologique en France. Et ça s'accumule d'une année à l'autre. Et c'est pareil.
Qui va financer cette banque ?
Et c'est pareil à l'échelle européenne. Eh bien, il faut que ce soit... L'objectif d'une telle banque, elle est d'utiliser cet argent public de façon à attirer pour faire effet de levier sur des capitaux privés. De l'argent public, mais pour faire effet de levier sur de l'argent privé, de façon à ce qu'on puisse, est-ce que des projets qui sont bons pour la planète puissent être financés de façon beaucoup plus massive et qu'on arrive à combler ce fossé-là de 30 milliards d'euros de sous-investissement chronique par an en France et même plus largement, comme je le disais, en Europe.
C'est pour mobiliser les grands groupes, les entreprises privées.
Pas que les grands groupes, effectivement, les entreprises privées, les investisseurs privés, les banques, il faut impérativement rediriger cet argent, l'argent qui est disponible, vers des projets qui sont bons pour la planète.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est pour ça qu'il faut créer vraiment une nouvelle banque. Ce n'est pas une question aujourd'hui de volonté politique, de décision gouvernementale française ou de décision à l'échelle européenne.
Non, il faut pouvoir investir de façon massive, il faut pouvoir aussi avoir des outils pour dérisquer, pour enlever du risque sur les investissements, pouvoir de cette façon-là, attirer les capitaux privés.
Brune Poirson, à chaque fois qu'on interroge un membre de la majorité ou du gouvernement ces dernières semaines au sujet des conclusions du grand débat, il répond comme vous, rien n'est tranché, tout est sur la table, tout est possible. Sauf sur une question, c'est l'ISF.
Alors, plusieurs choses. Déjà, si tous les membres du gouvernement vous répondent la même chose, alors non seulement c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
C'est que les consignes sont bien passées.
Non, au-delà de ça.
La maison est bien tenue.
Sur l'ISF.
Au-delà de ça, vous savez, ça prouve aussi la démarche et la méthode avec laquelle nous menons ce grand débat. Si on donnait des pistes, où on disait, on avait pris des décisions maintenant, on nous dirait, vous voyez, ce grand débat-là, c'est n'importe quoi, il était cousu d'avance, on connaissait les réponses avant même, et tout ça, en fait, n'est qu'un alibi pour faire gagner du temps. On nous accuserait, justement, de ne pas respecter, de ne pas écouter suffisamment les Français. Donc oui, c'est la réalité, c'est que...
Alors, est-ce que la question du retour de l'ISF est également sur la table?
Le président de la République l'a dit, l'ISF... Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un totem. Si les Français veulent s'en saisir, en parler, eh bien à ce moment-là, nous en parlerons. Mais l'objectif, bien sûr, n'est pas...
Il pourrait y avoir une décision ?
L'objectif, encore une fois, laissez-nous le temps d'analyser ce qui remonte des grands débats. Mais moi, j'en fais beaucoup. C'est loin d'être la première chose qui remonte.
Mais sur les sujets fiscaux, il y a beaucoup de demandes qui reviennent.
Absolument.
Par exemple, l'idée de créer une nouvelle tranche, une tranche supérieure pour les plus hauts revenus, une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Ça aussi, c'est en débat.
On ne s'interdit de réfléchir et de regarder. Non, mais c'est la réalité.
Retour à ce que je vous disais.
De regarder à rien. Ouais. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on travaille. Mais là, on rentre dans une deuxième phase du grand débat. Vous savez, on s'achemine vers la fin de ce grand débat. On rentre dans une deuxième phase. Aujourd'hui, par exemple, au ministère de la Transition écologique et solidaire, il va y avoir une réunion avec l'ensemble des corps intermédiaires sur la question de l'écologie. Il y en aura sur les trois autres thèmes aussi. Ça, c'est cette semaine. Et puis ensuite, il y aura des conférences citoyennes. Et
donc, ça finira quand, le grand débat, d'ailleurs?
À partir du mois d'avril, le président de la République commencera à faire les premières propositions. Mais encore une fois,
et ça va durer combien de temps? Ça va être jusqu'à la fin du quinquennat?
Mais potentiellement,
petits cailloux posés, ou est-ce que c'est tout au mois d'avril?
Potentiellement jusqu'à la fin du quinquennat.
Parce qu'on n'a pas de baguette magique. Vous savez, cette crise là, ce mouvement des gilets jaunes. Certes, il a eu lieu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, en début du quinquennat, mais c'est une crise qui a des racines qui est très profonde. On va pas, du jour au lendemain, parce qu'on aura discuté pendant 3 mois, d'un coup de baguette magique, enlever tous ces problèmes-là. Ce serait mentir aux Français. Ce serait ne pas leur dire la vérité. Vous dire en revanche qu'il y a des premières mesures et des premières annonces qui vont être faites, des annonces fortes qui vont être faites par le président de la République, oui. Mais ensuite, ça potentiellement sera jalonné et se mettra en place jusqu'à potentiellement la fin du quinquennat. Il y a à la fois des mesures, mais aussi potentiellement des changements. Plusieurs fois que je dis potentiellement, il y aura aussi des changements de méthode.
8h51, on va s'interrompre quelques instants pour un rappel de l'actualité. Camille Revel.
Un jour de deuil national déclaré en Éthiopie après le crash hier du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Il fait 157 morts, dont 9 Français. Bernard Tapie, jugé dès aujourd'hui pour escroquerie à Paris dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires a déjà été condamné à rembourser la somme qu'il avait perçue. Elle atteint 525 millions d'euros, selon l'avocat du CDR, l'organisme chargé de gérer le passif de la banque. Sur France Info, maître Benoît Chabert accuse Bernard Tapie d'être un escroc. L'IGPN saisie après la mort d'une policière hier soir dans les locaux de la PJ à Paris. Elle a été tuée par son collègue d'un tir accidentel, selon les premiers éléments. La France fermera bien ses 4 dernières centrales à charbon d'ici 2022. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, vient de le confirmer sur France Info. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle le Parlement à voter l'état d'urgence alors qu'une panne électrique géante paralyse le pays. Il dit espérer faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans son pays aujourd'hui. Les écoles et les administrations restent fermées.
France Info.
Jusqu'à 9h, c'est la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, qui est l'invitée de France Info, Renaud Dely.
On commémore aujourd'hui, Brune Poirson, le 8e anniversaire de la tragédie de Fukushima, de l'accident nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011. 8 ans après, la France, elle a décidé de repousser finalement à 2035 son objectif de ramener de 75 à 50% sa part de production d'énergie nucléaire. Pourquoi un tel recul ?
Alors, ce n'est pas un recul. Sur le papier, oui, puisque c'était 2025. Oui. La réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est que 2025, c'est demain, et quand nous sommes arrivés au gouvernement, rien, absolument rien, n'avait été fait pour commencer à fermer des réacteurs nucléaires. Rien. Or, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas anodin de fermer des réacteurs nucléaires. Vous savez, en France, par exemple, il y a un principe qui s'appelle la sécurité d'approvisionnement. On a l'électricité jour et nuit. C'est un choix qu'on fait en France.
On se souvient que dans la foulée de l'accident de Fukushima, l'Allemagne a décidé très rapidement. Pourquoi la France prend autant de temps et pourquoi on prend 10 ans supplémentaires ?
Vous savez ce qu'a fait l'Allemagne ? Elle a ouvert des centrales à charbon de façon massive. Elle est maintenant un des premiers émetteurs d'Europe. Nous, on est le pays hôte de l'accord de Paris. Notre objectif, il est de réduire nos émissions de CO2. Ça ne veut pas dire, et attention, je vous dis pas, je suis pour, je fais pas un plaidoyer pour le nucléaire ou un plaidoyer contre le nucléaire, je vous dis, voilà la situation du mix énergétique français.
L'objectif à terme, et l'objectif, très long terme, c'est de sortir du nucléaire.
L'objectif, il est d'ici 2035 de fermer 14 réacteurs nucléaires. Deux en 2020 à Fessenheim. Ça, c'est notre objectif. Nous y tenons. EDF est en train de préparer, de nous faire des propositions pour savoir quel réacteur, précisément, nous allons fermer.
Et vous savez, ça se prépare. Est-ce que ça reste une énergie d'avenir, à vos yeux, nucléaire ?
Pour l'instant, notre objectif, il est de développer de façon massive les énergies renouvelables. Ça, c'est notre objectif, et dans plusieurs domaines, aussi bien le solaire, par exemple, qui devient de plus en plus compétitif, qui peut se développer sans aide d'État, dans certains endroits et dans certains contextes, pour développer aussi l'éolien, mais toute une autre série et batterie d'énergies renouvelables. Ça, c'est notre objectif numéro un.
Et l'EPR continuera à développer cette nouvelle génération de centrales ?
Écoutez, pour l'instant,
il y aura d'ouvertures de nouvelles centrales, non, des ouvertures de nouvelles centrales.
Écoutez, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Nous laissons le temps.
L'EPR, il doit quand même ouvrir.
Nous laissons le temps.
Celui de Flamanville.
Oui, bien sûr. Oui. Non, je pensais que vous parliez de la construction en tout cas, de l'émergence de nouvelles technologies. Centrales. En tout cas, oui, il faut attendre. Et bien sûr, c'est l'objectif. Hein, c'est que l'EPR de Flamanville ouvre.
Ça, vous avez une date ?
C'est nécessaire. C'est pas bientôt.
Bientôt, cette année, l'an prochain ?
Le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible. On est à 2 mois et demi, Brune Poirson, des élections européennes, élections cruciales en France, et votre parti n'a toujours pas de tête de liste. Qu'est-ce qui coince ?
Il n'y a rien qui coince.
Tout va bien.
Vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, notre priorité, c'est le grand débat. On veut que ça se déroule bien.
Il y a des petites élections qui arrivent quand même.
Bien sûr, et elles sont absolument majeures. Vous avez rappelé vous-même la tribune du président de la République. Simplement, si tout de suite on annonçait, regardons les choses de façon très lucide, si on annonçait tout de suite une tête de liste, eh bien à ce moment-là, l'ensemble du débat et l'ensemble des oppositions
seraient... Vous voulez dire que c'est volontaire ? Si on n'a pas encore de tête de liste, c'est volontaire.
Mais
le président
le moment,
la connaît,
mais
il ne veut pas la dévoiler pour l'instant.
Mais je ne suis pas dans la tête du président de la République, et c'est encore moins moi qui prends les décisions. Ce que je vous dis simplement, c'est que nous nous concentrons sur le grand débat, mais ne vous en faites pas, nous sommes très mobilisés pour la campagne des Européennes.
Mais vous dites, Brune Poirson, votre priorité, c'est le grand débat, vous concentrez dessus, vous évoquez la tribune du président de la République. La tête de liste, c'est Emmanuel Macron, en fait.
Non, c'est vous qui lisez.
Il est en train de mener la campagne européenne.
Emmanuel Macron, non mais il n'y a pas de surprise là derrière. Emmanuel Macron, il a fait de l'Europe l'ADN de son projet politique. Il a eu le courage de faire campagne là-dessus. C'est pour ça qu'il a beaucoup rassemblé d'ailleurs autour de lui. Donc, qu'il se prononce et qu'il soit très volontaire sur la question européenne, qu'il s'adresse même directement aux citoyens européens pour relancer l'Europe, pour éviter qu'elle tombe dans le déclin, ça c'est tout à fait normal.
Et qu'il utilise le grand débat national pour mener cette campagne des élections européennes ?
Mais ça c'est vous qui le dites, c'est absolument pas le cas.
Beaucoup de ses opposants
lui
reprochent.
Ils ont tout intérêt. Vous savez, ils s'attendaient pas, ils ont été les premiers à fustiger ce grand débat, à ne pas vouloir même au début y participer. Ils voient qu'au contraire c'est une initiative qui plaît beaucoup aux Français. Il faut qu'ils existent politiquement et donc ils tapent dessus de cette façon-là.
Vous pourriez être candidate, vous, sur cette liste ?
Alors là, moi, je vais vous dire, et on vient d'en parler.
Apparemment,
je suis extrêmement.
À en juger par votre réaction, en tout cas. Non, c'est.
je suis concentrée sur mes objectifs et mes
échéances.
Vous savez, avec des si. Si vous voulez, on commente les commentaires des commentaires. Il n'y a pas de problème.
Si vous le demandez, ce serait oui.
Non, mais c'est pas. Écoutez, là, pour l'instant, c'est pas au programme.
Merci à vous pour une poisson. Merci Renaud Delis. À demain matin.
Merci à vous.